Tourcoing orchi, et ta place un cloître long.
Il est les mineurs,
Wormwood commine,
Bonjour, vous écoutez Radio Campus Lille, c'était les Ch'tis lyriques. Alors les Français par millions jubilent et sautent comme des cabris en criant les bleus, les bleus, les bleus, il n'est jamais plus question de tricolore. Tant mieux pour le moral de nos compatriotes accablés d'austérité et inquiets pour l'avenir de leur pays en crise. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet 2014, il est midi légèrement passé et nous sommes sur Lille. Avec nous l'équipe des journalistes et des journalistes du journal La Brique, qui viennent nous présenter le dernier numéro,
Une brique dans la droite et ses extrêmes.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour. Voilà.
Donc cette fois-ci, le canard lillois s'attaque à l'extrême droitisation qui ne se cache pas, toujours derrière celles et ceux que l'on voit. Du FN aux politiques républicaines, en passant par la lutte antifasciste et ses ennemis. Alors 24 pages d'infos, d'enquêtes à serrer, autant d'outils pour combattre la droite et ses extrêmes. Des illustrations, une poésie, quelques surprises, une superbe double page. La carte du cartel des droites extrêmes.
Voilà, alors peut-être juste quelques mots pour rappeler ce que ce journal, La Brique, existe depuis 7 ans. C'est un journal entièrement animé par des bénévoles qui ne bénéficient d'aucune subvention, qui est sans publicité et qui a fait le choix donc depuis à peu près, enfin bientôt un an, de faire non plus des numéros un peu généraux qui traitaient de différentes thématiques, mais de se concentrer à chaque fois sur un sujet, de manière à pouvoir donner un petit peu plus d'armes que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent, et de délivrer toute une série d'infos et de cerner une problématique, de manière à ce que les gens qui sont aux prises avec ces sujets-là puissent se mobiliser. Alors on a fait le choix effectivement dans le cadre de ce numéro-là de s'attaquer à l'extrême droite. Alors l'extrême droite qu'il faut ici comprendre dans un sens très large, c'est-à-dire que d'où vient l'idée au départ. L'idée elle a été soumise en discussion au lendemain du score des municipales, où là on avait déjà été un petit peu atterré par toute une série de commentaires, en particulier les commentaires d'une grosse partie de la classe politique qui semblait redécouvrir que le Front National faisait des scores importants dans la vie politique française. Et un des trucs qui nous a énervés dès le départ, c'était cette idée-là que, en fait, tous les 5 ans, voire même parfois tous les 4 ans, on a l'impression de redécouvrir un séisme politique. Or, il ne peut pas y avoir de séisme politique tous les 15 ans, c'est qu'au bout d'un moment, il y a bien quelque chose qui s'effondre de manière un petit peu plus structurelle. Et c'est à ce truc-là qu'on a cherché à s'attaquer. Alors, on a voulu aussi s'attaquer à ce problème-là dans la mesure où, dans la foulée un peu de ces gesticulations de défense des institutions républicaines, etc., agitées par le Parti Socialiste local, mais aussi par d'autres dans tous les coins de la France, on a entendu beaucoup de conneries un petit peu agaçantes, en particulier l'idée que les classes populaires se seraient massivement ralliées au Front National, que du coup l'ennemi ce serait, même si j'ai jamais dit exactement comme ça, mais ce serait un petit peu l'ouvrier, hein, qui serait un petit peu déboussolé, qui ne comprendrait plus rien, et puis qui serait devenu comme ça du jour au lendemain un petit peu raciste, et que donc voilà, l'ennemi ce serait à la fois le Front National et peut-être en arrière-fond donc le prolo, quoi. Donc c'était une des idées qui nous avait un petit peu titillé au départ et qui nous a poussé donc à resserrer un petit peu le constat sur ce qui se passait à Lille, avec au moins deux idées forces. La première, c'est que la gauche et la droite, plutôt que de s'offusquer des scores du Front National, devraient peut-être un petit peu balayer devant leur porte, dans la mesure où on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais ils sont les principaux responsables de cette montée du Front National. Et deuxième idée force qu'on a aussi essayé de développer dans le canard, c'est cette idée que si l'extrême droite a pu monter, c'est bien précisément parce qu'elle était déjà au pouvoir. Alors, elle n'a pas forcément beaucoup d'attributions publiques et officielles, mais dans les faits, ses idées, ses thèmes, ses leitmotifs, ses propositions de réforme, ce sont celles qui, généralement, animent un petit peu les cerveaux des préfectures, les cerveaux des mairies, des collectivités locales, des communautés d'agglos, etc., etc. Donc l'idée, c'était de montrer ça pour éviter de se contenter un petit peu de banalités confondantes sur le Front National qui n'est pas gentil, et de revenir un petit peu sur la façon dont, depuis plus d'une dizaine d'années, en fait, le FN est parvenu à gangréner tous les discours et une bonne partie des politiques publiques qui sont mises en place au jour le jour.
Belle intro, hein, Philippe.
Merci, merci. Bien torché. Merci Philippe.
Bien torché. Une petite chanson alors.
Une petite chanson.
Bah, écoutez, Lutin bleu, la droite.
Le clébard de mes voisins d'en haut, celui qui aboie après les gosses et qui fait peur aux petits oiseaux avec sa gueule de molosse. Ce clébard, les enfants, ce clébard est tellement méchant qu'il doit être de droite. D'ailleurs, il chie sur tout le quartier, c'est bien la preuve qu'il en est. De se tenir droite dans mes baskets, mais qui finissent toujours au fond à magouiller des trucs pas nets, à fréquenter la puanteur. Elles exhalent de drôles d'odeurs. Mes chaussettes, au final, mes chaussettes sont tellement sales qu'elles doivent être de droite. Les chaussettes, ça sent pas très bon, c'est bien la preuve qu'elles en sont. À vous pour m'expédier au Turbin, à coups de pompe, vous savez où. Il aime jouer les petits chefs, il est à cheval sur les horaires. Il me fait marcher à la cravache. Mon réveil est tellement peau de vache qu'il doit être de droite. Mon réveil m'empêche de glander, c'est bien la preuve qu'il en est. Le cœur sur la main, la gauche est pleine de compassion. La gauche fait des débats d'idées, solidaire et généreuse. Mais la gauche est aussi moderne et elle sait être responsable face aux Françaises et aux Français. La gauche intègre la conjoncture. La gauche se propose de taxer le marché de la cacahuète. Cette pauvre gauche est tellement bête qu'elle doit être de droite. La gauche est grasse comme un goré, c'est bien la preuve qu'elle en est.
La gauche, c'est être responsable, hein, surtout responsable de la fuite de ses électeurs. Finalement, hein, c'est ce qui explique le succès aux élections du Front National. Il n'y a pas eu beaucoup plus de gens qui ont voté, au contraire, même un petit peu moins qui ont voté Front National. Par ici, qu'est-ce qui se passe? Que fait la gauche? Bah, à Calais, tiens, on fait le ménage, j'ai l'impression, d'après nos dernières informations.
Oui, 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 tout à fait. Oui, donc dans ce numéro, on a fait un reportage également sur Calais. Donc on est parti un petit peu là-bas pour rencontrer les gens. Tout ça, ça se passait en fait autour d'une opération emmenée par la préfecture et la mairie, conjointement avec l'hôpital, les services hospitaliers là-bas, pour soi-disant endiguer une épidémie de gale. Donc l'idée là pour la préfecture et la mairie, c'était de faire disparaître les trois grands camps en fait de migrants qui sont placés en fait dans la ville le long des berges. Bon, rapidement, quand on creuse un peu, bon, déjà on peut s'apercevoir que bon, ce genre d'opération s'inscrit dans un climat depuis des années d'invisibilisation de la présence des migrants, ou bien de refus en tout cas de leur permettre d'avoir des conditions de vie à peu près décentes, hein, comme toujours, avec du coup des sanitaires, des poubelles dans les lieux qu'ils fréquentent, ce qui en soi génère l'épidémie de gale après que prend la préfecture ou la mairie en prétexte pour disperser ces camps.
Des conditions de survie, quoi, plutôt.
Des conditions de survie. Et en fait, on s'aperçoit après aussi que tout ça a surtout un intérêt, c'est que là, c'était bientôt la fête de la mer à Calais, là, dans le mois de juin, et qu'en fait, tout ça vise surtout à faire place nette pour les touristes, un peu comme on a connu ici avec les Roms autour des opérations de l'île 3000 ou de l'île 2004, etc. Et voilà, là on peut dire aussi que l'intérêt là surtout de ce type d'intervention, ça va être de briser aussi l'unité là qui émerge entre associations, militants no border et migrants, puisque par rapport à ces dernières années, c'était pas forcément évident à tous ces différents groupes de s'entendre, d'être unanimes, d'être d'accord. Là, on s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup plus d'unité, beaucoup plus de liens entre ces différents groupes. Et donc là, bah voilà, le lieu de la distribution, par exemple, qui était occupé là depuis une quinzaine de jours, là, 3 semaines, est évacué là du coup depuis ce matin apparemment. Donc voilà, ça se fait à grand renfort de CRS. Donc il semblerait qu'il y ait déjà une soixantaine de réfugiés qui étaient arrêtés là depuis le début de l'opération.
Et qui ont été emmenés à Lille.
Apparemment emmenés sur Lille, donc il y a incertitude au niveau du lieu où ils vont être détenus, au centre de rétention administrative de l'Équin directement, ou bien au commissariat central de Lille, du côté de la porte des postes. Voilà, on verra ça sur la journée. En tout cas, ça pourrait être intéressant de peut-être se mobiliser par rapport à toutes ces personnes voilà, qui sont arrêtées là aujourd'hui par rapport à ce contexte calaisien.
Alors, contexte calaisien, d'ailleurs, alors, juste pour préciser, en fait... Par rapport à ce que tu disais juste avant, donc Calais c'est à droite. Mais Calais c'est à droite, c'est pas une ville de gauche, mais c'est des politiques qui sont mises en œuvre par donc Nathalie Bouchard, directement dans la droite ligne de ce qu'avait pu faire un maire communiste qui, à l'époque, donc Jacky Hennin, s'était quand même félicité de la destruction du camp de Sangatte, en expliquant, c'était sous l'ère Sarkozy, qu'il était satisfait de voir enfin un ministre de l'Intérieur faire son travail. Donc là, je trouve que c'est quand même un bon exemple, au-delà de... en plus, disons, du caractère dramatique du quotidien des personnes qui sont soumises à l'arbitraire municipal et policier, souligner un peu ce truc-là de convergence entre voilà, une gauche dite communiste et une droite décomplexée qui fraye allègrement sur les terres du FN.
Et un gouvernement PS qui, lui, commande la gendarmerie, qui l'envoie. C'est pour ça que je parlais de...
Voilà, absolument.
Bien
voilà.
Sûr.
Il n'y a pas de problème. C'est la police, c'est une fonction régalienne de l'État. D'ailleurs, c'est une des seules qui va rester au pays quand l'Union européenne sera complètement aboutie. S'il existe encore quelque chose.
Et juste sur ce papier sur Calais, là, l'équipe de la Brique qui est allée sur place en a tiré un bon reportage, quoi. Et il faut dire que c'est aussi la première fois qu'il est illustré. Il est très bien illustré. C'est un reportage, on va dire, à demi illustré par Achille Blaster, un dessinateur très prometteur, faut
de
bien
talent,
dire,
oui.
De talent, voilà.
Qui fait un travail remarquable.
Donc des super dessins dans un reportage très bien ficelé, très bien écrit, voilà.
On se lance pas des fleurs. Hein,
non.
Pas d'autopromo.
C'est 2 euros.
C'est 2 euros, ça fait 24 pages. Et au milieu de. Il y a un petit plan de la région, donc, au milieu du journal.
Pas du tout.
C'est intéressant.
Pas du tout, c'est pas un plan de la région.
C'est
un organigramme.
Un organigramme, d'accord.
Stylisé par l'ensemble des dessinateurs de la Brique qui ont passé au moins une quinzaine d'heures dessus. Donc, c'est une vaste collaboration entre le pôle dessinateur de la Brique. Alors, sur cette carte, vous pouvez trouver les différents échelons de la droite, qu'elles soient institutionnelles ou qu'elles soient, un peu plus tartiflettes. Elle est divisée en 9 catégories, cette carte. La droite institutionnelle qui est incarnée par Régis Koch, Gérald Darmanin, respectivement maire de Croix et maire de Tourcoing. Qui sont connus plus pour leurs dérapages verbaux, notamment par rapport aux Roms. De l'autre côté, à l'autre bout de la carte, on a le Front National, et tout ce qui est entre les deux, c'est les différentes passerelles entre la droite dite républicaine et la droite, comment on pourrait l'appeler celle-là, l'extrême droite, enfin, on n'a plus le droit de le dire.
Milicienne.
Milicienne.
Droite extrême. C'est les droites qui refusent le jeu démocratique, voilà, donc c'est les droites miliciennes et les droites radicales, ensemble plutôt au Front National, des partis politiques, quoi.
Une carte qui s'inspire un peu d'une autre qui avait été faite par...
Par le site La Horde.
Voilà.
Voilà, voilà.
En partie, sauf que là, on est vraiment sur la région et donc avec des personnalités vraiment du coin et dont on peut voir les noms, ne serait-ce que pas plus loin qu'ici, dans le campus, Veracel et compagnie là, qui ont été tagués sur les murs du campus.
Alors qui est Veracel? C'est le porte-parole de Génération Identitaire. C'est un ancien membre de la Maison Flamande qui aujourd'hui fait essentiellement des opérations coup de poing médiatiques. Alors les plus connus sont les blousons jaunes dans le métro, donc ce sont des milices qui visent à défendre le brave usager Transpol contre une racaille qui serait fraudeuse, plutôt basanée et qui chercherait à agresser les gens. Donc eux s'organisent et ils descendent en caoué de couleur jaune, donc tout le monde sait qu'il ne pleut pas dans le métro, hein, je tenais à le préciser, donc...
Mais peut-être avant c'est d'en vrai. Arriver là, Harry, peut-être on peut revenir sur un autre papier qui est dans le prolongement aussi du papier sur Calais, qui est un papier autour des Roms et...
Mais pas de problème, Jean-Philippe.
Et de, la façon dont ils sont, la façon dont
écoutez,
ils sont
Louis
pris
David,
en charge dans la métropole et dans la région.
Oui, du coup, on s'est intéressé un petit peu aux solutions d'intégration à la française sur la région. Et on s'aperçoit qu'en fait, l'intégration à la française, c'est... On sélectionne parmi les terrains qui vont être expulsés quelques familles qui seraient les plus intégrables et on les envoie dans ce qu'on appelle les villages d'insertion. Donc voilà.
Alors, les villages d'insertion. Oui,
Qu'est-ce que c'est les villages d'insertion ?
Bonne question.
Bonne question. Mmh. Alors c'est des petites structures préfabriquées. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de règles très strictes pour intégrer ces villages et à l'intérieur même. Les familles doivent les respecter. Il y a par exemple un couvre-feu. À 5h30, tout le monde doit être rentré. Les visites sont interdites. La plupart sont sous vidéosurveillance. Et on a aussi des gardiens avec des chiens qui surveillent ces villages, quoi. Donc voilà, on est censé trouver du travail aux familles qui sont dans les villages. Il y a un bon travail fait par les associations mandatées sur la scolarisation, l'alphabétisation. Mais au final, on se rend compte que les résultats sont très maigres face aux promesses de ces villages d'insertion. Donc par exemple, là, sur les 6 villages d'insertion qu'il y a à Lille, il y a à peu près 9 personnes qui ont trouvé du travail. Donc c'est quand même... je pense qu'il y a 150 personnes dans les villages d'insertion. Certains y sont depuis à peu près 5 ou 6 ans. Et pour l'instant, il n'y a que 9 personnes qui ont trouvé du travail ou qui ont été relogées. Donc c'est très maigre. Voilà. Il faut savoir aussi que en fait, ce qui est très dur dans ce processus, c'est comment se passe la sélection. Donc en fait, la préfecture mandate des associations plutôt institutionnelles, donc type AFEJ, et donc vont sur les terrains faire ces petits bilans qui ressemblent à des bilans policiers. Normalement, un bilan, ça devrait être comme un livre, en fait, l'histoire des familles, ce qu'elles veulent, etc. Sauf que là, on a leur nom, leur prénom, le nombre d'enfants qu'ils ont, et puis il n'y a même pas leurs aspirations à ce qu'ils veulent faire en France, en fait. Et donc, de ces bilans policiers, on va sélectionner, et c'est comme on le montre dans l'article, en fait, on joue à pique-nique douille parce que les critères sont tellement peu cohérents que... Bon, voilà, on sélectionne au hasard des familles. Et toutes les autres sont censées quitter le territoire français. Justement, je voudrais prévenir qu'il y a un village d'insertion à Villeneuve-d'Ascq. Un terrain à Villeneuve-d'Ascq, chemin Napoléon, qui va être expulsé. Donc là, il y a eu un référent au tribunal administratif. Donc il y a 200 personnes qui vont être expulsées, là, dans la semaine. Et pour le coup, quand il va y avoir une expulsion, les diagnostics sociaux doivent être effectués. Et là, ce n'est toujours pas le cas. Il n'y a toujours pas eu de diagnostics sociaux. Donc ça montre l'inefficacité du processus. C'est-à-dire que là, en une ou deux journées, on va devoir faire un bilan des bilans sociaux de 200 personnes. Donc je ne sais pas comment ça va être possible. Et toujours est-il que j'informe qu'il va falloir mobiliser du monde pour ces 200 personnes qui vont être expulsées de Villeneuve-d'Ascq.
Voilà. Et donc ça se passera chemin Napoléon à Villeneuve-d'Ascq.
Voilà.
Dans quelle partie de Villeneuve-d'Ascq ? tu sais pas ou...
Je pense que c'est un peu, c'est près de la rue Verte.
D'accord.
Voilà.
Voilà, sachant que, pour mémoire, encore une fois, le maire de Villeneuve-d'Ascq, lui, pour le coup, est bien socialiste, et c'est aussi quelqu'un, donc Gérard Caudron, qui s'est illustré à d'innombrables reprises pour son amour pour la cause de Rome et pour la finesse d'analyse. Hein, c'est quand même quelqu'un qui avait déclaré, donc je cite, « Il faut savoir que les Roms s'installent n'importe où, en y vivant n'importe comment et sans règles. » Il y a d'autres populations européennes ou extra-européennes qui émigrent dans notre pays et qui ne se conduisent pas comme ça. Donc en fait, c'est un édile, un personnage public, un membre de la gauche politique qui peut, face caméra, régulièrement énoncer ce qu'on peut appeler un propos confinant donc à du racisme, dans la mesure où ça hiérarchise des populations dans leur capacité à s'intégrer. Voilà pour un petit contexte local sur le rapport de la gauche à l'extrême droite.
On repart direct ou pas ?
La gauche et les Roms, ou alors tous nos politiques et les Roms, ça ne s'use pas quand on s'en sert. Je rappelle quand même la petite polémique qui a eu lieu à Sisoin il y a à peu près un an et demi, deux ans, sur l'installation d'un camp Rom. Et pendant ce temps-là, on signait les autorisations de construction d'un supermarché Intermarché qui est maintenant à l'entrée de Sisoin. Donc tous les commerçants ont fait signer des pétitions contre l'installation de ce camp Rom et se sont tous fait blouser. Donc maintenant, si vous voulez faire vos courses le dimanche matin à Sisoin, allez à l'Intermarché. Bon, il n'y a pas de publicité sur Radio Campus Lille, évidemment. Les commerçants de Sisoin, à mon avis, il y en a une bonne partie qui vont disparaître. Ils se sont fait blouser. Alors, une petite chanson. Les producteurs de porc, les fachos font chier. Radio Campus Lille, vous l'avez deviné.
Vous
l'avez deviné, on est en forme, on est un peu à l'arrache, c'est le bordel, il y a du papier partout, on sait plus trop par où commencer.
24 pages,
c'est nickel. Ouais, 24 pages.
C'est une émission artisanale.
Ouais. T'as mis où la bière ?
Ça devient alors, presque un rituel les 24
dans
pages.
Dans la glacière.
Alors, pour rebondir peut-être sur ce qu'avait dit Harry, notre Harry Cover local, en abordant donc le cas de M. Verracel et des générations identitaires et de leur sortie dans le métro, on a fait une double page, un peu comme peut-être certains s'en souviennent, le numéro sur le logement, où on avait fait bidonville d'hier, bidonville d'aujourd'hui, en mettant en parallèle un peu des formes d'habitat qui se retrouvaient à deux époques différentes. Là, on a fait milice d'hier, milice d'aujourd'hui. Et donc en faisant un premier focus sur une milice roubaisienne des années 80 qui s'appelait les Chevaliers de Roubaix et voilà qui avait des pratiques en termes de d'action de rue qui étaient assez virulentes, qui sortaient en uniforme, qui avaient un local présent à Roubaix et qui n'hésitaient pas à tabasser. Ou à, au moins à contrôler, en tout cas à contrôler les personnes dans la rue à ce moment-là. Et puis qui d'un autre côté aussi avait un travail de, on va dire, de lobbying auprès de la mairie pour essayer de faire passer des mesures sécuritaires, l'installation de caméras dans la rue. Et voilà, donc on décrypte un petit peu cette milice-là qui était emmenée par un monsieur qui est mort il n'y a pas très longtemps, monsieur Deval, qui devait faire partie justement de la liste municipale du maire de Roubaix, Delbar.
Guillaume Delbar.
Guillaume Delbar. Et voilà, donc un personnage de sinistre mémoire qui a mis en place cette milice qui a pas duré énormément longtemps, qui est morte en 93 parce que trop clairement noyautée par les éléments du Front National et par des petits fachos en tout genre. Et voilà, donc on met en parallèle l'existence de cette milice-là dans les années 80 à Roubaix avec l'existence d'une autre milice plus connue aujourd'hui et plus récente, qui est celle des générations anti-racailles. Je ne sais pas si tu veux en dire.
Ouais, ben on a un peu parlé déjà. Génération identitaire, c'est un groupe politique qui est issu du bloc identitaire, plus connu, je pense, au niveau national, et qui existe depuis. Génération identitaire, ça existe depuis 2012. Hein. Et en France, enfin à Lille, pardon, il est arrivé après l'effondrement de la maison flamande de Lambert Sarr, dont on a parlé un petit peu, et regroupe maintenant l'essentiel des militants ou des miliciens d'extrême droite de la région. Alors Génération Identitaire, le fonctionnement, il est basé sur la médiatisation, en fait. Aurélien Verracel, le responsable de Génération Identitaire Flandre, dont on parlait tout à l'heure, l'a très bien compris. Il joue beaucoup sur les médias et il trouve toujours un journaliste pour lui tendre le micro, notamment parmi la Voix du Nord. Alors ils ont fait, effectivement, au début de l'année, pendant l'hiver, ils ont fait une sortie dans le métro, des tournées anti-racailles, comme ils disent. Hein, ils expliquent que leur intérêt, c'est d'assurer la sécurité dans le métro, d'épauler les forces de l'ordre qui sont soi-disant débordées, etc. Et là, finalement, il y a eu tout plein d'articles dans la presse qui ont été écrits sur cette sortie, qui a été depuis réitéré à Paris, à Lyon, même à Lille plusieurs fois. Et il y a eu un seul article qui était bien, enfin qui était critique, qui amenait bien les choses. C'était Aïdé Sabéran, journaliste Aïdé Sabéran de Libération. Sinon, tout le reste, c'était clairement, on tend le micro à une milice qui s'apparente à une milice fasciste, hein, sur certains aspects. On le tend le micro sans prendre de recul, sans poser un avis critique. Alors c'est
même une question critique, oui.
C'est hallucinant. Donc voilà, cette milice en blouson jaune occupe le terrain dans le métro. On l'a vu aussi dans la rue. Comme ils disent, ils vont à la rencontre des SDF français de souche. C'est ce qu'ils disent. Et apparemment, bon, donc ils les montent clairement contre les autres, notamment les Roms. Donc ça crée clairement des situations très tendues dans les rues, dans le métro, ça peut être tendu aussi. On l'a vu dernièrement, ils ont fait une sortie pour le dernier match de l'Algérie. Ils se sont donné rendez-vous à la Grand Place.
À la Grand Place,
c'est ça.
On a peut-être une exclusivité la brique à ce sujet-là. Hein,
Mais juste l'idée avec ces deux pages-là, pour refaire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un racisme qui est institutionnel et qui est organisé par le haut, par l'État. Et là, ce qu'on montre aussi, c'est que la période, elle est marquée par quoi ? Par une occupation de la rue et par des fascistes qui sont aussi présents dans les rues.
Ces gars-là, en fait, se cachent plus, quoi. Ils mettent des blousons jaunes et tout, etc. Ils ont des discours qui sont islamophobes, qui sont homophobes. Ils ont même plus besoin de se cacher, en fait. Et même, c'est pire, ils ont des journalistes qui leur tendent le micro, quoi.
C'est la crise économique.
Voilà.
Il faut bien.
Alors, ouais, c'est probablement lié avec cette fameuse crise.
Et donc, une des ambitions de la carte centrale, c'était justement de faire le passage entre ce racisme institutionnel et politicien et le racisme de rue et les milices. Harry.
En fait, on est allé, donc c'était avant-hier, sur la Grand Place, après le match. Donc, c'était France. Je suis pas trop le foot, hein, donc. France-Nicaragua. Donc c'est pas Nicaragua ? Bon, c'est pas grave. Oui, c'était avant. Bon, c'est pas grave. En tout cas, les identitaires se sont rassemblés à Grand Place. Donc, ils n'avaient pas de kawé pour le coup. Mais ils ont fait quand même une belle image sur Twitter. Sauf qu'ils omettent un fait, c'est que les intermittents du spectacle ont installé leur QG au Théâtre du Nord. Et tout ce que ces branleurs ont trouvé à faire, c'est d'arracher une banderole des intermittents du spectacle. Donc, sympa, ça se prétend national socialiste, même pas socialiste pour le coup. Donc,
scoop pour le coup.
Merci monsieur Cover. Merci monsieur Cover. Merci
monsieur Cover pour cette. Récupérer le discours social, socialiste.
Pour cette intervention.
Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, vous rappeliez certains faits d'une époque passée, le général Boulanger. Qui, on peut le dire, était plutôt national-socialiste aussi, mais pour se concilier les ouvriers, il a refusé d'envoyer la troupe lors de certaines grèves. Donc, effectivement, ça lui a donné un succès populaire énorme.
Oui, exactement. Alors, national-socialiste pour Général Boulanger, pour Génération Identitaire, je ne suis pas sûr que ce soit le terme qui convienne, vraiment.
Voilà.
Mais en tout cas, ils font partie des droites extrêmes, clairement.
Mais bon, après, pour voir un peu comment on en est arrivé à un groupe de Génération Identitaire aujourd'hui qui a vraiment pignon sur rue, qui revendique en tout cas un certain nombre d'adhérents aujourd'hui à son actif. Bon, ici localement, on sait tous qu'il y a quelques années, il y avait encore la Maison Flamande qui était ouverte à Lambersart, du coup, qui était un lieu de rassemblement au départ, qui voulait un peu sortir certains nazillons perdus de la rue, pour les remettre dans le droit chemin, je ne sais pas ce qu'est le droit chemin du fascisme, mais en tout cas dans une autre optique idéologique. En fait, la Maison Flamande a été rapidement débordée, justement, parce qu'elle s'est retrouvée acculée avec énormément de nazis, alors que ça se voulait plutôt un lieu identitaire. Ça, c'est des guerres de chapelle aussi au niveau de l'extrême droite. Et donc, cette maison a fermé il y a un an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. On s'est retrouvé ensuite dans la foulée avec... pas mal d'événements locaux assez flippants, assez stressants, des manifs nationales, où des gros groupes quand même se donnaient rancard à Lille pour défiler tous ensemble. On a eu beaucoup de projets, certains ont été évoqués tout à l'heure, que ce soit les espèces de soupe populaire pour les SDF de souche, ou que ce soit à un moment les projets de boulangerie identitaire, ou que ce soit les concerts, les tournois de boxe, etc., etc. Bon, en fait, heureusement pour nous, la plupart de ces projets sont aussi tombés à l'eau. Et en fait, c'est beaucoup la Manif pour tous qui a remis tout ça au goût du jour et qui a permis à ces gens de ressortir un peu et de revenir dans la lumière. Et c'est ce qui a beaucoup permis à ces groupes de revenir. Et pour refaire la soudure avec Génération Identitaire, bon, ce qu'on peut en sortir aujourd'hui, c'est que c'est eux qui font beaucoup quand même un espèce de taf militant pour le Front National. Hein, ça, c'est aussi un peu le sens, en tout cas, de ce qui est explicité dans la carte. Et c'est ce qui leur... Et je vais repasser la parole à ma camarade.
Oui, pour rebondir un peu sur le réseau de la Manif pour tous, on s'est intéressé aussi dans un article, enfin même une double page, sur l'ABCD de l'égalité, qui, donc pour rappel, est un programme de l'éducation nationale en expérimentation dans 10 académies volontaires sur l'année 2013-2014, et dont on a surtout entendu parler autour du terme « théorie du genre ». Donc on a essayé d'y voir un peu plus clair, surtout que ça a été très médiatisé, avec beaucoup de désinformation. On entendait un peu de tout, qu'on allait habiller les filles, les garçons en jupe, qu'on allait apprendre à des enfants de 3 ans à mettre des capotes. Enfin voilà, ça passait un peu dans tout le bordel. Alors notre première surprise, c'est en commençant à aller sur le terrain, en fait, on s'est rendu compte que concrètement, surtout à Lille, qui n'est pas une des académies volontaires, il n'y avait pas grand-chose. Et que le débat se passait surtout dans les médias. On a eu l'occasion notamment de rencontrer deux chercheuses qui ont travaillé justement sur le réseau, on va dire, et sur cette médiatisation. Et elles nous ont donné une clé de compréhension, notamment en montrant que même si c'était une thématique qui est là depuis très longtemps, celle de la fameuse théorie du genre, en fait, ils ont surfé vraiment sur le réseau de la Manif pour tous. Et au moment où l'ABCD est arrivé, il leur a suffi juste de reprendre les numéros et de renvoyer un message. Il y a une mobilisation, notamment médiatique, très forte, juste parce que c'était dans la continuité de la Manif pour tous. Donc voilà. Ensuite, en essayant d'y voir plus clair, en fait, on s'est rendu compte que c'est surtout une théorie écran de fumée. Et que d'un côté, on avait le gouvernement qui refusait en disant que la théorie n'existait pas, donc refusait tout débat. De l'autre côté, on avait ceux qui étaient anti, on va dire, ceux qui étaient pro-égalité. Et au final, en fait, on avait l'impression que les vraies questions et les vrais débats n'étaient pas abordés en utilisant cette théorie comme façade, en fait. Voilà. En attendant, on sait que c'est toujours pratique d'avoir des débats qui occupent l'espace médiatique. Ça évite certains autres sujets. Pour finir, en fait, on voit que là, en fait, Benoît Hamon vient d'annoncer que l'ABCD de l'égalité a été retiré. Donc la généralisation n'aura pas lieu. Pourtant, il maintient un plan égalité homme-femme qui reprend une formation pour les professeurs sur les thèmes de l'égalité. Donc au final, à mon avis, nous, ce qu'on s'était dit à la fin de l'article, c'était que c'était pas fini parce qu'on pensait que la généralisation avait lieu. Le gouvernement revient sur ses dires, mais les vraies questions et les vrais débats qu'il y a derrière, notamment sur le rôle de la école, l'égalité à l'école, qu'elle soit sociale ou sexuelle ou tout ce que vous voulez, ou même plus généralement la question de la laïcité, ont encore une fois été complètement évincées du débat public et ça reste toujours pratique. Voilà.
Et donc sur votre organigramme, on va l'appeler comme ça. Mm-hmm. Donc, SOS Touti, Lille l'Éveilleur, la Chapelle du Rosaire. Alors, je vous conseille de vous balader du côté de la Chapelle du Rosaire, Saint-Maurice, le dimanche matin. Vous aurez le plaisir de saluer les familles qui vont à la Chapelle du Rosaire. Vous allez voir, c'est une très belle image, très, très intéressant. La Manif pour tous, jour de colère. Bon, je vous cite quelques sujets qui sont dessinés et abordés.
Quelques affreux.
Une petite chanson sur le sujet. Alors, c'est une chanson de Michel Lebourg, Quand les cathos se mobilisent. Plutôt une chanson anticléricale, mais enfin, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. On la coupera peut-être parce qu'elle fait 5 minutes, mais voilà. Michel Lebourg. Hein.
Quand les cathos se mobilisent, il y a foule dans les rues. Dimanche matin dans les églises, il y a de pelés attendus. Combien sont-ils à pratiquer, ceux qui viennent manifester, se réclamer de convictions qu'ils n'affichent qu'aux grandes occasions. Entre-temps, c'est le calme plat. À la messe, ils n'y vont même pas. Après la manifestation, ils remballeront leurs convictions. Quand les cathos se mobilisent, il y a foule dans les rues. Dimanche matin dans les églises, il y a de pelés et attendus. Ils manifestent rarement, pour les bonnes causes exclusivement. L'école privée payée par tous, être le mariage pour tous. Entre-temps, c'est le grand silence. Les fidèles brillent par leur absence. Ils donnent rarement de la voix. Les intermittents de la foi. Quand les cathos se mobilisent, il y a foule plein les rues. Mais le dimanche dans les églises, il y a de pelés attendus. C'est pas qu'ils n'aiment pas les gays, mais faut surtout pas les marier, car cela pourrait ébranler les fondements de la société. Il faut défendre les valeurs de l'Église et des cœurs. La prochaine fois, si je qu'on défile contre les curés pédophiles, quand les cathos se mobilisent, il y a foule dans les rues. Dimanche matin dans les églises, il y a de pelés et un tondu. Et lorsque les soldats du Christ défilent en scandant des slogans, c'est pas pareil que les gauchistes, c'est chic et sans débordement. Les tronches de premier communion, les petits enfants un peu gnangnan, défilent aux côtés des fachos, intégristes et autres barjots. Quand les cathos se mobilisent, il y a foule plein les rues. Dimanche matin dans les églises, il y a de pelés et attendus. Pour faire le plein de fidèles, plein de convictions, plein de zèle, rien ne vaut la contestation. Et une bonne manifestation, tout bien réfléchi, j'en conclus qu'il devrait prier dans la rue, comme le font communément leurs homologues musulmans. Variante, rien de tel que les religions pour bloquer la circulation. Quand les cathos se mobilisent, ils le fassent dans leurs églises, car la vie de tout un chacun n'appartient pas aux calotins.
Donc vous écoutez Radio Campus Lille, je vous le rappelle. Donc ça, c'était Michel Lebourg, un enregistrement direct dans nos studios lors d'une émission du samedi matin entre 10h et midi. Avec nous, toute l'équipe, enfin, une partie de l'équipe du journal La Brique, à propos de son dernier numéro, oui. Des gueules qu'on dégueule, comme on l'appelle le dernier numéro déjà.
Les gueules qu'on dégueule, voilà. Un numéro consacré à la droitisation.
Les sales gueules de l'extrême droite.
Ouais, ça c'est bien.
Voilà. Yes.
Alors, le samedi, vers 11h, 11h30, en général, on est en vente au marché Sébastopol. Et sinon, le dimanche, on est aussi régulièrement présent au marché de Oisem. Ensuite, pour détailler un peu plus notre agenda, et là, c'est très important, ouvrez vos agendas. Le vendredi 4 juillet.
C'est-à-dire ce vendredi.
Ce vendredi-là, au Haricot, à partir de
19h30.
Alors nous avons
rue Gambetta.
242 rue Gambetta.
Voilà, ça c'est bien, c'est beau, c'est collaboratif. Alors nous organisons un apéro débat concert, enfin avec des cacahuètes et de la bière.
Et de la tartiflette.
Et de la tartiflette, bien sûr. Très important. Alors, nous invitons un groupe qui s'appelle Night Soul Medicine Band, qui viendra à partir de 21h, 21h30. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des reprises folk, bluegrass, et notamment du film Alabama Monroe.
Tout un programme.
Oh là là, ça va être.
Et il y aura du rockabilly aussi.
Je ne connais pas Billy.
Beaucoup de rockabilly.
Je ne connais pas Billy, mais c'est très très bien.
Donc on regarde pas les matchs de l'équipe de France et puis on vient discuter des droites extrêmes et danser sur du rockabilly vendredi.
Alors bien sûr, il y aura la possibilité d'acheter le numéro, mais aussi vous pouvez toujours vous abonner en envoyant un chèque au 14 rue des Tours, ou sinon allez sur le site internet labrique.net.
Super, merci.
Voilà. Alors, on était reparti un petit peu donc cette idée-là, hein, à savoir que il y avait beaucoup de focalisation autour de du Front National, que ça nous avait permis d'identifier le fait que les idées de l'extrême droite elles gravitaient à la fois au sein de groupuscules et dans les administrations publiques. Alors, nous, on s'est un petit peu interrogé de la responsabilité que pouvait occuper la gauche, alors ici prise dans un sens très large, c'est-à-dire le Parti Socialiste sans doute, on a déjà dit un mot. On pouvait aussi se demander en fait comment avait réagi le Front de Gauche par rapport aux déroutes successives qu'il avait dû affronter. Donc c'est pour cette raison qu'on a rencontré notamment Hugo Van Damme, donc qui était le candidat Front de Gauche au municipal lors des dernières élections, et qui nous a un petit peu à Lille, et qui nous a un petit peu expliqué lui son ressenti. Et en fait, son ressenti, c'était un petit peu il est à la fois désabusé, il est à la fois un petit peu inquiet de voir en fait ce Front National se déployer sans pour autant avoir les forces militantes dont lui peut disposer dans le cadre du Front de Gauche. Et du coup, ça posait une question plus générale, de savoir comment le Front National fait donc pour coaliser toutes ces voix. Alors, c'est un peu ce qu'on avait dit au tout début, il faut se méfier. Le Front National fait des gros scores dans la mesure où ce sont les autres partis qui font des petits scores. Hein. Par exemple, on avait un petit peu regardé de près, mais les scores du Front National, le plus gros score du Front National, un des gros scores du Front National qui a été enregistré, c'était à Lille-Sud. À Lille-Sud, qui est un quartier populaire, à forte coloration immigrée, etc. Donc c'est quelque chose qui avait beaucoup questionné les gens, en disant, mais comment ça se fait qu'un quartier populaire avec beaucoup d'immigrés peut autant voter Front National? Et en fait, en regardant encore une fois d'un petit peu plus près, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 650 votants sur un quartier quand même de 20 000 habitants qui avaient voté Front National. Alors 650, c'est beaucoup, on va pas se mentir, mais 650 sur 20 000, ça relativise déjà un petit peu la force de frappe de ce Front National. Du coup, ça engage un petit peu une analyse de ce que c'est que le Front National dans les différents coins de la métropole, en particulier parce que le Front National de Roubaix, c'est pas du tout celui de Hénin-Beaumont. À Hénin-Beaumont, le Front National a pu profiter donc des déboires d'une classe politique parasitaire, alors que à Roubaix, visiblement, le candidat Front National qui n'a presque pas fait campagne a pu bénéficier d'une audience remarquable, puisqu'il a fait près de 19%. Donc du coup, nous, c'est un peu ces questions-là qu'on s'est un petit peu posées, dans la mesure où, dans d'autres cercles politiques, on avait vu un petit peu ce désarroi, ce brouillage du clivage gauche-droite, comme par exemple autour de la galaxie Soral Dieudonné. Ouais, alors sur la question de Soral et Dieudonné, d'Alain Soral et Dieudonné, nous, ce qui nous avait interrogé, c'était dans le cadre des quartiers populaires, justement. Puisque en allant là-bas, à Roubaix ou à l'Île-Sud ou dans notre endroit, on s'était rendu compte que beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément très impliquées dans la vie politique ou dans les débats politiques, en tout cas, avaient connaissance et même relayé les discours d'Alain Soral. Quoi. C'était assez frappant et tout. Et donc, notre question, c'était de s'interroger sur l'influence d'Alain Soral dans les quartiers populaires. Alors on peut pas nier une certaine influence, hein, c'est clair, on peut dire qu'il touche beaucoup, beaucoup de gens, d'abord parce qu'il a un discours qui est socialisant, qui est pro-palestinien, il aborde vraiment les questions racialistes, alors que d'autres, justement, la gauche ne le fait plus du tout, hein, alors qu'elle pouvait le faire à une époque, elle ne le fait plus du tout. Donc ça, c'est clair qu'il y a une certaine influence par rapport à ça, qui touche des gens. Mais il faut relativiser cette influence, puisque, premièrement, il n'a pas une force militante très importante. Hein. Son association Égalité et Réconciliation, c'est vraiment un groupuscule, un tout petit groupuscule. Il y a très peu de militants dedans. Et en plus de ça, finalement, son discours, il reste aussi assez inaccessible en termes de référence ou quoi, ou pas plus accessible finalement qu'un discours qui nous vient directement de l'extrême gauche. Finalement, c'est toujours, c'est pour ça que ça met, il faut relativiser son discours. Alors, dans ce style, dans ces conditions, c'était savoir si l'arrivée, l'irruption en force de Dieudonné et de la Quenelle dans les médias ces derniers mois, etc. En sachant tous les liens qu'il y a entre Dieudonné et Alain Soral, c'est savoir si cette irruption de Dieudonné, irruption médiatique, avait servi, avait rapporté encore plus d'influence à Alain Soral dans les quartiers populaires. Donc là c'est le plus troublant, parce que effectivement il y a quand même un lien entre par exemple l'utilisation de la quenelle et l'avancée de certaines idées d'extrême droite propres au discours soralien. Il y a des liens, et ce qui est le plus troublant, c'est de voir quelqu'un comme Jean-Marie Le Pen qui va faire la quenelle, Gollnisch aussi, et des jeunes des quartiers populaires qui sont descendants de certaines personnes qui ont combattu pendant la guerre d'Algérie, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui est hyper troublant, et donc sur cette quenelle, il faut encore une fois relativiser. C'est un geste qui a été interdit par un gouvernement, par un parti politique qui clairement est pourri, et donc forcément quand quelque chose comme ça est interdit, on va avoir tendance à transgresser l'interdiction, quoi. Donc cette quenelle, c'est aussi une transgression d'une interdiction.
Je vais rebondir pour présenter un autre papier qui a une idée de fond et qui a été dit tout à l'heure par Philippe, qui est de dire si le Front National et si les idées d'extrême droite augmentent ou atteignent ces niveaux-là, c'est aussi parce qu'on a une gauche qui a renoncé, une gauche qui ne fait plus le taf qu'elle faisait auparavant. Ouais. Et donc là, on accueille pour la deuxième fois Marc Leleu, qui est un historien local de la région, et qui nous fait un petit topo sur, en reprenant l'idée, voilà, le FN essaye de draguer les ouvriers, aujourd'hui on nous présente ça comme si c'était quelque chose qui tombait, qui venait d'arriver, qui était insolite. Lui revient dans l'histoire et prend notamment trois moments en disant, voilà, le mouvement nationaliste et les mouvements d'extrême droite ont toujours dragué les ouvriers, notamment dans la région, et donc il s'attache à montrer que le mouvement boulangiste dans les années 1880 était déjà très fort sur cette stratégie-là, que l'Action française, avec leur magazine qui était le Nord Patriote dans les années 1910-1914, était exactement là-dessus, inciter les ouvriers à la contre-révolution.
Un journal distribué à la sortie des usines.
Les journaux distribués, voilà, à la sortie des usines, et qu'encore la Ligue nationaliste des Croix de Feu dans le Nord, dans les années 30, était exactement aussi sur ce même credo-là. Donc il ne faut pas commencer à voir... dans le fait qu'il y ait le FN qui drague les ouvriers, quelque chose de très, très insolite comme ça. Et ce qui montre très bien en conclusion de ce papier-là, c'est de dire, à chacun de ces moments-là, en face, on avait un parti communiste, on avait des idées de gauche et d'extrême droite, et d'extrême gauche qui venaient combattre directement et qui venaient peser pour faire en sorte que ces mouvements-là, ils restent résiduels, ils soient résiduels, et surtout qu'ils proposent des alternatives. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que la gauche a complètement abandonné là-dessus, que l'extrême gauche est complètement à la ramasse, et qu'il n'y a pas de, il y a rien qui est proposé d'alternatif. Et donc c'est ça qui fait vraiment flipper dans la période actuelle, et que peut-être on retrouvait pas pendant tout le siècle. Quoi.
Enfin, il n'y a rien qui est proposé d'alternatif. En même temps, on n'en entend pas parler dans les médias les plus courants. Faut se pencher, donc faut aller vers vous, vers d'autres petits journaux, excusez-moi. Bon, les journaux, il y en a qui sont distribués gratuitement, non plus à l'entrée des usines, mais à l'entrée du métro, de la même époque. Et en 1880, si mes souvenirs sont exacts, il y avait eu quand même beaucoup de violence sur certains travailleurs étrangers, travailleurs belges. Hein, il y a beaucoup de descendants de travailleurs belges, et il y en a plus de 1000 qui ont quitté la France pour retourner dans leur pays. Je mettrai un petit papier sur le site de Radio Campus Lille là-dessus.
Et alors du coup, dans le cadre de ce numéro, partant un peu du constat qu'il n'y a pas grand-chose à attendre du coup des partis politiques, on a voulu rencontrer des gens qui sont des acteurs de terrain sur les luttes antiracistes ou antifascistes. Donc on a rencontré quelques syndicats, la CNT, Sud Étudiants, qui nous parlent un peu de leur travail respectif. On a rencontré les sans-papiers, les Flamants Roses, également le MRAP,
le CSP 59 aussi.
Et puis la FA. l'action antifasciste. Donc voilà, tous ces gens-là nous parlent un peu du coup de leur approche de la lutte, de comment ils s'organisent, de quels sont un peu leurs champs d'intervention et et les moyens qu'ils mettent en œuvre. Globalement, ce que les différences d'intervention, c'est voilà, soit placer sur un champ institutionnel, c'est-à-dire voilà, faire un travail sur le racisme ordinaire dans son entreprise, militer sur sa fac pour pas laisser trop de place aux présences de groupuscules qu'on a évoqué plus tôt dans ces lieux-là. Il y a aussi voilà, un côté éducation populaire, un peu avec le MRAP, qui fait beaucoup d'ateliers. Et puis après, il y a une organisation un peu plus de rue ou un peu plus de lutte, voilà, avec un antifascisme qui se revendique un peu plus radical. Bon, je vais très vite, je passe vite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous pourrez découvrir ça dans nos pages. Et bien sûr, même si tous ces collectifs, syndicats, associations se positionnent voilà, tous voilà, dans le cadre d'une lutte antiraciste, antisexiste, voilà, contre l'homophobie aussi ou l'islamophobie, c'est loin d'être toujours aussi simple. Donc c'est le sens d'un deuxième papier qui pose la question en fait de l'unité, hein, de tous ces mouvements pour avoir une lutte cohérente et convergente contre la montée de l'extrême droite ou contre ses présences. Et voilà, ce dont on s'aperçoit en tout cas là, au travers de différents exemples récents, c'est en tout cas que voilà, pour s'organiser aussi dans la lutte contre ces idées-là, il est nécessaire d'être au clair sur des bases idéologiques communes et convergentes, du coup, comme je disais, puisque voilà, ce qu'on observe là, c'est qu'en gros, il y a des pratiques militantes issues des différentes tendances idéologiques de ces groupes, voilà, qui fait que on peut pas arriver au même point tous ensemble. Voilà, entre communistes et libertaires, voilà, il y a des différences assez nettes, voilà, qui peuvent poser question, qui permettent des fois aussi de se retrouver, mais qui des fois posent question.
Et pour l'unité antifasciste, quand même, hein.
Ouais, bravo.
Ah ben, merci Tony. Oui, mais comme le disait mon camarade Ettore Fontana, sur des bases radicales.
Vous écoutez Radio Campus Lille, vous l'avez reconnu. C'est pas la seule émission qui dit ça. Bon, avant de vous laisser avec Fenêtre sur le monde, magazine interculturel, une invitation au voyage, au brassage, à la rencontre d'autres cultures, on va vous rappeler quelques petits rendez-vous. Donc, l'abricot haricot, c'est samedi. Oui,
vendredi, 19h30, au haricot.
Vendredi 4 juillet.
Au haricot rue Gambetta à Lille, évidemment.
Et sur Villeneuve-d'Ascq, il y a un rendez-vous beaucoup moins joyeux.
Oui, donc la semaine prochaine. Va se décider certainement en fin de semaine.
Avant que le Tour de France arrive, oui.
De toute façon, on va voir ça dans les journaux, à la radio, je pense.
Et surveiller pour les gens de Calais aussi qui sont arrêtés sur l'île.
Mais tout sera sur le site labrique.net.
Sur ce, nous n'avons plus le temps de passer une chanson. À bientôt.
Salut.
On se retrouve à la rentrée.
Et on se retrouve à la rentrée, donc fin septembre.
Mi-octobre
le prochain numéro.
Numéro 41, mi-octobre.
Si vous voulez passer avant, vous êtes cordialement invité.